Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'ONU Info Genève, le podcast du service de l'information des Nations Unies à Genève. En 2014, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 13 juin comme journée de sensibilisation à l'albinisme. L'albinisme est une maladie rare qui affecte la production de pigments mélaniques, touche environ une personne sur 15 000 en Europe et une personne sur 4 000 dans les pays africains. Les personnes atteintes d'albinisme ont souvent le teint clair et présentent un certain degré de déficience visuelle non corrigible. Elles sont également plus à risque de développer un cancer de la peau en raison de l'exposition au soleil, ce qui constitue la première cause de décès chez les personnes atteintes d'albinisme en Afrique. Les personnes atteintes d'albinisme font souvent face à la stigmatisation et à la discrimination en raison de leur apparence distincte et de leur handicap visuel. Cette discrimination est encore plus accentuée dans certains pays africains où les traditions et croyances exacerbent leur marginalisation. Pour évoquer cette journée de sensibilisation à l'albinisme, j'ai le plaisir d'accueillir en studio l'artiste belge Patricia Willock, qui a réalisé une expo photo White et Bonnie qui met en lumière les défis et les succès des personnes atteintes d'albinisme. Une exposition qui inaugurait ce 20 juin au Palais des Nations à Genève. Également en studio, Antoine Glickson, directeur exécutif de l'Alliance mondiale de l'albinisme. Ce sont nos invités cette semaine. Patricia Willock et Antoine Glickson, bonjour.
Bonjour Alexandre.
Bonjour Alexandre.
Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Antoine Glickson, peut-être tout d'abord expliquer ce que vivent au quotidien peut-être les personnes atteintes d'albinisme, que ce soit en Europe, en Afrique, dans le monde. Comment vivent les personnes atteintes d'albinisme ?
Grande question. Question simple, mais réponse compliquée, parce qu'il n'y a pas une réponse en réalité. Ça dépend énormément de l'endroit où les gens vivent, du contexte socio-économique, du climat. Et puis aussi, bien sûr, de la pigmentation de la population générale. Ce n'est pas du tout la même chose d'être très blanc dans une population blanche ou d'être très blanc dans une population plutôt noire. Bien sûr, les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que l'albinisme n'impacte pas que les personnes albinos elles-mêmes. Ça impacte toute la famille, ça impacte le cercle social. Et en fait, les premières personnes impactées, quand l'albinisme apparaît dans une famille, ce sont les parents. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va dépendre un peu des régions du monde. Je peux parler de mon expérience personnelle, puisque je suis moi-même albinos, c'est que je suis né et j'ai grandi en France. J'ai la chance d'avoir grandi dans une famille où il y avait déjà deux autres enfants albinos, donc ce n'était plus vraiment une découverte pour mes parents, mais je sais ce que ça a été à la naissance de ma grande sœur. C'est un parcours de diagnostic, parce que, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, Dans une population très pigmentée, ça se voit tout de suite à la naissance. Mais dans une population caucasienne, ce n'est pas forcément visible à la naissance. Donc, il y a un certain parcours de diagnostic qui peut être plus ou moins long, plus ou moins traumatisant pour les parents. Donc, c'est une manière de répondre à votre question. Comment, en tout cas, on commence l'histoire d'un albinisme dans une famille.
Les personnes atteintes d'albinisme sont particulièrement touchées par les cancers de la peau, mais aussi par des maladies des yeux. Comment est-ce que les personnes atteintes d'albinisme vivent avec cette problématique, cette thématique liée au cancer de la peau ?
Mal. En tout cas, mal dans les pays où ils sont les plus exposés au soleil. Encore une fois, on parle d'Afrique, mais plus généralement des tropiques. Il s'agit de pays qui, non seulement sont très exposés au rayonnement UV du soleil, mais ce sont aussi des pays qui, pour la plupart, sont... à faible ou moyenne ressource, je crois qu'on dit ça comme ça en français, des pays où l'accès aux soins est extrêmement limité. Donc, pour dire les choses très concrètement, en Afrique, beaucoup de personnes albinos développent un cancer de la peau avant l'âge de 30 ans. On a même beaucoup d'exemples d'enfants qui développent un cancer de la peau. Et puis, la situation est suffisamment extrême pour que le cancer de la peau en Afrique soit la première cause de mortalité dans notre population. Alors, pourquoi les gens meurent encore aujourd'hui de cancer de la peau alors que c'est uniquement lié à l'exposition au soleil ? Parce que d'abord, ils ne sont pas tous au courant du fait qu'ils sont exposés à un danger. Quand ils sont au soleil, ça peut paraître surprenant, mais ils ne le savent pas forcément. Quand bien même on les éduquerait sur ce sujet-là, ils n'ont pas forcément les moyens de se protéger. La crème solaire dans ces pays est soit inexistante, soit beaucoup trop chère pour que les gens puissent s'en acheter. Et puis, ils n'ont pas accès à tout ce qui est dépistage. Et le jour où ils développent un cancer, ils n'ont pas non plus accès à un dermatologue ou à un médecin pour le traiter. Donc, c'est malheureusement aussi simple que ça. Et de fait, n'y a rien qui est fait au niveau international sur ce sujet. Il y a quelques initiatives d'ONG, ça reste très limité, mais c'est néanmoins suffisant pour montrer que si on le veut, on peut faire bouger les lignes. Mais il faut des moyens, il faut une volonté des pouvoirs publics.
Des pays, par exemple, comme en Afrique, les personnes atteintes d'albinisme souffrent de stéréotypes. Ils sont même vus comme certains ayant des pouvoirs magiques. Enfin, il y a toute une croyance aussi autour de ces personnes et beaucoup de fantasmes.
Effectivement, c'est bien sûr un phénomène contre lequel on se bat, la société civile, les associations d'albinisme. Mais on ne change pas des sociétés du jour au lendemain. Donc oui, dans beaucoup de pays à faibles ressources en particulier, on parle beaucoup de l'Afrique, mais j'ai suffisamment de contacts partout dans le monde pour savoir que ce n'est pas limité à l'Afrique. Le manque d'éducation de la population générale ouvre la porte à toutes les croyances, aussi plus farfelues les unes que les autres. Hein. Pour quelqu'un comme moi, venant de France, mais des croyances qui peuvent être tout à fait extrêmes, hein. Tout simplement... penser que les personnes albinos ne sont pas des êtres humains, mais des fantômes. Penser qu'en utilisant des organes, des membres de personnes albinos dans des potions magiques, eh bien, on sera riche et on sera prospère. Voilà, des choses comme ça. Et des exemples, il y en a malheureusement beaucoup. Et c'est difficile de combattre ces croyances.
Et des personnes atteintes d'albinisme sont situées pour ça. Dans certains pays, on les poursuit, on les tue pour les pouvoirs magiques qu'elles pourraient avoir, etc.
Absolument. C'est un sujet qui est suivi de près depuis une vingtaine d'années, je dirais, en ce sens que la société civile s'est mobilisée pour mettre en avant ces sujets-là, qu'ils passent pas inaperçus, qu'ils soient connus du grand public. On a aujourd'hui recensé de l'ordre de 800, ce qu'on appelle des attaques, qui vont du kidnapping où finalement la personne survit, mais aussi de kidnapping qui conduisent à un meurtre, toujours pour les mêmes motivations, celles que vous évoquez, d'utiliser dans des potions magiques et autres gris-gris. Donc dans certaines parties du monde, encore une fois, particulièrement en Afrique subsaharienne, on vit dans la peur dès le plus jeune âge, ce qui fait qu'on va parfois même s'isoler soi-même. C'est-à-dire que aller à l'école, ça peut être dangereux parce que sur le chemin de l'école, on peut se faire kidnapper, par exemple.
Patricia Willock, pourquoi avoir choisi de faire des photos sur ce thème de l'albinisme ?
Moi, je suis née, j'ai grandi au Congo. Et je me souviens, quand j'étais petite, en fait, quand j'allais au marché avec ma maman, je voyais ces enfants atteints d'albinisme sur le dos des mamans noires et je ne savais pas exactement ce que c'était. Alors, je ne me souviens pas d'avoir reçu d'explication, peut-être même d'avoir demandé, mais je me souviens qu'il y avait un certain questionnement parce que je ne savais pas si ces personnes étaient des blancs ou... Donc je suis retournée au Congo en 2013 et là, par hasard, j'ai rencontré une dame qui était atteinte d'albinisme, qui avait malheureusement un cancer et qui m'a expliqué, son parcours, qui m'a expliqué son expérience de vie et ce qu'elle avait enduré. Et je me suis renseignée sur cette condition. Et justement, cette année-là, les Nations Unies prévoyaient cette résolution pour reconnaître la Journée internationale de l'albinisme. Donc j'ai continué en fait mon documentaire. Et j'avais appris effectivement que dans certains pays, comme par exemple la Tanzanie ou le Malawi, énormément d'enfants étaient pourchassés. En fait, on coupait leurs membres pour en faire des potions magiques. Et je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, au Congo, dans un grand pays comme ça, de manière générale, les personnes atteintes d'albinisme étaient quand même plus ou moins bien intégrées dans la société. Et je me suis dit en fait qu'il fallait prendre ces photos un peu en exemple pour le reste des pays d'Afrique. Et j'ai continué ce projet photo et j'ai rencontré une personne qui s'appelle Mwimba Texas. Alors lui, c'était un catcheur albinos. Le catch, c'est très répandu en RDC. Et il a vraiment profité de sa notoriété pour voyager dans les différentes parties de la RDC et essayer de changer le narratif par rapport à l'albinisme, ce qu'il a très bien fait. Et je pense que c'est en grande partie grâce à sa voix que ces personnes atteintes d'albinisme ont été mieux intégrées dans la société en RDC.
Et donc, Patricia, la situation est plutôt bonne en RDC, puisque vous avez eu l'occasion d'aller plusieurs fois dans le pays.
Alors, de ce que moi j'ai vu, effectivement, puisque je travaille avec la fondation Mwimba Texas, c'est que J'ai travaillé avec des familles et dans des régions où les personnes étaient mieux intégrées, mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité dans tout le Congo. Au Congo, il existe aussi des attaques. Et évidemment, un des gros problèmes des personnes atteintes d'albinisme en RDC, mais en Afrique, c'est le cancer de la peau.
Alors c'est toujours un peu difficile hein, d'expliquer, mais est-ce que vous pourriez décrire un petit peu ces photos que vous avez prises ?
Alors clairement, ce sont des photos d'intégration. Parce que voilà, j'aurais pu faire le choix de montrer des photos beaucoup plus tristes et beaucoup plus... Il y avait énormément de cancers de la peau, il y avait énormément d'enfants qui étaient discriminés, des enfants qui ont été abandonnés. Il y avait aussi des femmes, malheureusement, qui sont très souvent abandonnées quand elles donnent naissance à un enfant qui est atteint d'albinisme. Et moi, j'ai fait le choix de prendre des photos plutôt d'intégration parce que mon idée, c'était que ces photos voyagent en Afrique et qu'elles puissent susciter un certain questionnement justement de la part de la population africaine. Donc j'ai pas mal exposé en Afrique et principalement en RDC. Et une des expositions que j'ai faites, c'était sur la place Victoire. Donc c'est un endroit à Kinshasa où il y a vraiment des millions de personnes qui passent par jour. Et quand elles ont vu les photos, elles ont vu des photos de Salif Keïta, du ministre, ministre de la communication au Congo, donc Monsieur Thierry Mongala, des photos de mon ami Michel qui est avocat. En fait, il y a vraiment eu un questionnement. Ils se sont dit, mais en fait, ces personnes sont aussi intelligentes que les autres. On peut se marier avec une personne qui est atteinte d'albinisme. Et donc il y avait toutes ces questions. Et pendant toute la durée de l'exposition, j'avais quelqu'un qui était là et qui répondait à ces questions. Moi, quand j'y étais, je répondais, mais aussi, il y avait d'autres personnes qui étaient là, des personnes atteintes d'albinisme, et pas que, des parents qui répondaient. Et je pense vraiment, enfin, moi, c'est ce que je voulais, en fait. Mon but était atteint, c'était de changer le narratif et de susciter le questionnement et de pouvoir répondre à des questions qui sont là.
Et est-ce que ces personnes ont accepté d'être prises en photo pour cette exposition quoi ?
Alors, j'ai travaillé avec justement la Fondation Mwimba Texas et donc on a fait tout un travail. Enfin, ils ont fait un travail d'abord de documentation. Enfin, en tout cas, ils sont partis voir les familles. Ils ont ciblé certaines familles. Ils ont vraiment expliqué à toutes ces familles ce que j'allais faire. Et quand je leur ai expliqué que c'était vraiment en particulier pour cette journée de l'albinisme, ils ont quasiment tous accepté. Et on avait aussi tout un projet, en fait. Donc, on avait trouvé un sponsor. On a envoyé pas mal de familles, en tout cas des enfants, dans un centre ophtalmologique. Voilà. On a mis tout un programme en place avec cette fondation. Et donc, bien évidemment, ils ont accepté parce que, voilà, ils savaient que leur image, en fait, allait aussi servir à une cause internationale, finalement.
Antoine, ce genre d'initiative pour porter un autre regard sur les personnes atteintes d'albinisme, que ce soit par la culture, la photo, etc. J'imagine que pour vous, c'est des initiatives qui permettent de mettre en lumière ces défis et davantage prendre en compte la situation des personnes atteintes d'albinisme.
Oui, absolument. Ce sont des initiatives qui nous sont très utiles, dont on a besoin, parce qu'on ne dit pas les mêmes choses avec des photos qu'avec des mots, je trouve. Ou en tout cas, certaines photos, comme celle de Patricia, nous permettent vraiment d'aller plus loin dans le discours qu'on cherche à avoir. Je pense que face à ces photos, on arrive à mieux se projeter, à mieux s'identifier, à mieux comprendre. Parce que c'est vrai que, sorti de son contexte, encore une fois, hein, il s'agit de photos prises en RDC, moi je vis en France, ça peut paraître vite... complètement surréaliste ce qu'on raconte sur la réalité de l'albinisme dans cette partie de l'Afrique centrale. Mais je crois que quand on est face à ces photos, on se dit oui, ah ok, d'accord, je commence à mieux comprendre cette réalité. Le simple fait de voir un enfant tout blanc entouré d'enfants noirs, ça aide beaucoup plus à se projeter. Hein. On comprend tout de suite que son enfance ne doit pas être facile. On comprend tout de suite qu'il doit être très facilement stigmatisé, il doit très facilement se retrouver exclu. Donc oui, ça nous est très utile. On en demande toujours plus, hein, d'ailleurs.
Patricia Willock et Antoine Glickson, un grand merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. C'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguère, Adélaïde Chauveau à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.